Qu'est-ce que vous dites? Demandez au CDP de lui trouver. Kent peinait à trouver le terme chinois adéquat. L'amour de ses rêves n'est-il pas assez gâté? Je m'excuse, mais je ne peux pas transmettre une telle requête. Dans ce cas, vous enfreignez le principe du programme collimateur. Peu importe combien un ordre de collimateur peut paraître incompréhensible, il doit être transmis. Pour le reste, c'est au CDP qu'il reviendra de trancher. Nous n'allons quand même pas dilapider les ressources des sociétés humaines pour permettre à ce genre d'individu de mener une vie de pacha. Monsieur Shi, nous travaillons ensemble depuis peu, mais j'ai beaucoup de respect pour vous. Un flic avec votre expérience et votre discernement, dites-moi franchement, croyez-vous réellement que Luo Ji soit en train de mener un plan de collimateur?
Je n'en sais rien,
répondit Shi Xiang en secouant la tête. Puis il leva la main pour interrompre Kent, qui allait renchérir. «
Mais, monsieur Kent, ce n'est que mon avis, pas celui de nos supérieurs. C'est la différence entre vous et moi, je ne fais qu'appliquer sagement les ordres, tandis que vous vous embarrassez sans cesse avec des « pourquoi ».
Où est le mal ?
Il n'y a rien de mal, mais si chacun d'entre nous devait d'abord connaître toutes les raisons détaillées d'un ordre avant de le mettre à exécution, alors le monde plongerait dans le chaos. Monsieur Kent, vous êtes hiérarchiquement mon supérieur, mais en définitive, vous comme moi, on est soumis aux ordres, n'est-ce pas? Ce qu'on doit comprendre en premier lieu, c'est qu'il y a certaines choses dont on ne doit pas s'occuper. Il faut se contenter de faire notre devoir. Si vous en êtes incapable, je crains que vous ne risquiez de traverser une période difficile.
Mais je traverse déjà une période difficile. Quand je pense que la dernière fois nous avons fait acheter à prix d'or le tonnelet de vin retrouvé dans l'épave. Non, mais de vous à moi, vous trouvez vraiment que ce gars-là ressemble à un collimateur?
À quoi devrait ressembler un collimateur?
Kent resta sans voix.
En tout cas, si les collimateurs devaient ressembler à quelque chose, on ne peut pas non plus affirmer que le professeur Luo Ji ne possède aucune des facultés requises.
Comment ? S'étonna Kent. Vous n'allez quand même pas me dire que vous lui trouvez des qualités ?
Ma foi, si, j'en vois quelques-unes.
Vous voulez rire ? Lesquelles ?
Shi Xiang posa la main sur l'épaule de Kent.
Eh bien, vous, par exemple. Si c'était vous qui aviez été bombardé collimateur, est-ce que vous en auriez profité pour jouir de la vie comme il le fait?
J'aurais implosé depuis longtemps.
Voilà exactement où je veux en venir. Mais le professeur Luo Ji se laisse aller à l'insouciance comme si de rien n'était. Mon vieux Kent, croyez-vous que ce soit si simple? Il faut avoir un sacré tempérament, celui de quelqu'un appelé à accomplir de grandes choses. Des gens comme vous ou moi en seraient incapables.
Mais il est si... comment dire... s'il continue à se laisser aller, qu'adviendra-t-il de son plan de collimateur?
On en parle depuis des plombes, mais vous ne voulez toujours rien entendre. Je vous ai dit que je n'en savais rien. Comment peut-on savoir si tout ce qu'il fait maintenant fait partie de son plan? Encore une fois, ce n'est pas à nous qu'il revient d'en juger. Et même si on avait raison...
Shi Xiang approcha de Kent et lui glissa à voix basse.
Il y a des choses pour lesquelles il vaut mieux prendre son temps.
Kent observa Shi Xiang pendant un long instant et finit par secouer la tête. Il n'était pas sûr d'avoir compris sa dernière phrase.
Bien, je ferai un rapport. Mais pouvez-vous me montrer la fameuse dulcinée?
En voyant le portrait de la jeune femme sur l'écran, les traits tirés du visage de Kent s'adoucirent brusquement. Il se caressa le menton et lâcha.
« Eh bien, mon Dieu, même si je ne crois pas qu'une fille comme ça puisse exister, je vous souhaite tout de même de pouvoir la trouver le plus vite possible. »
« Colonel, ne trouvez-vous pas un peu rustre qu'un homme de mon identité vienne inspecter le travail politique et idéologique de votre armée ?»
demanda Taylor lorsqu'il rencontra Chang Beiyei.
« Non, monsieur Taylor. Il y a eu des précédents dans l'histoire. Donald Rumsfeld avait visité la commission militaire centrale du Parti communiste dans le temps. J'y faisais à l'époque mon instruction, »
répondit Chang Beiyei.
Il n'éprouvait pas cette curiosité pour Taylor partagée par les autres officiers chinois et ne traitait pas le colmateur avec prudence et distance. Sa sincérité détendit la conversation.
« Votre anglais est excellent, vous devez être de la marine ?»«
Oui. J'ai vu que le contingent de militaires venus de la marine dans l'armée spatiale américaine est encore plus important. »
Jamais cette vieille branche de l'armée n'aurait imaginé que sa flotte naviguerait un jour dans l'espace. « Colonel, je serai franc. Lorsque l'amiral Chang Weizi vous a présenté comme étant le membre le plus éminent du département politique, je pensais que vous viendriez de l'armée de terre. Elle reste après tout l'âme de l'armée chinoise. »
Chang Beiyei donnait clairement l'impression de ne pas partager ce point de vue, mais il écarta la question avec un sourire bienveillant.
« Une même âme peut habiter différentes branches d'une armée. Toutes les jeunes forces spatiales de par le monde sont nécessairement marquées du sceau d'une culture militaire passée. Je m'intéresse beaucoup au travail idéologique effectué au sein des forces spatiales chinoises. Je souhaiterais pouvoir mener des investigations plus approfondies. »
Aucun problème. Mes supérieurs m'ont informé qu'en ce qui concernait le cadre de mon travail, je n'avais rien à vous dissimuler.
Je vous remercie.
Taylor hésita un instant, puis reprit.
Le but de ma visite est d'obtenir la réponse à une question. Me permettez-vous de vous la poser en premier ?
Naturellement. Je vous écoute.
Colonel, croyez-vous que nous puissions un jour rétablir l'esprit des armées du passé ?
De quel passé parlez-vous ?
Une échelle de temps très vaste, disons depuis la Grèce antique jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Lorsque tous les soldats partageaient l'idée que le sens du devoir et de l'honneur était au-dessus de tout, et que le moment où cela s'avérait nécessaire, ils étaient prêts à donner leur vie sans aucune hésitation. Vous avez sans doute remarqué que depuis la Seconde Guerre mondiale, cet esprit a disparu de toutes les armées, que ce soit celles des pays démocratiques ou totalitaires. Les militaires sont issus de la société. Il faudrait que cet esprit du passé dont vous parlez renaisse dans la société tout entière.
Je partage cet avis.
Mais cela, monsieur Taylor, c'est impossible.
Pourquoi ?
Nous avons 4 siècles devant nous. C'est au cours d'une durée analogue que nous sommes passés de l'ère de l'héroïsme collectif à celle de l'individualisme. Pourquoi ne pourrions-nous pas revenir en arrière ? Nous en avons le temps.
Chang Beiyei médita un moment ses paroles.
C'est une question très complexe. Mais je crois que la société humaine a grandi et qu'elle ne replongera pas dans l'enfance. Pendant les 4 siècles qui ont façonné notre société actuelle, nous n'avons jamais été préparés, ni mentalement ni culturellement, à faire face à une telle crise et à une telle catastrophe. Mais dans ce cas, d'où vous vient votre confiance dans la victoire ? D'après mes informations, vous êtes un triomphaliste convaincu. Comment une flotte aussi affligée par le défaitisme pourrait-elle affronter un si puissant ennemi ?
Ne venez-vous pas de dire que nous avions 4 siècles devant nous ? Si nous ne pouvons pas revenir en arrière, nous devons au moins aller résolument de l'avant.
La réponse de Chang Beiyei était opaque, mais Taylor n'obtint rien de plus dans la conversation qui s'ensuivit. Il avait seulement la sensation que les pensées de cet homme étaient bien plus profondes que ce qu'une simple discussion permettait de révéler. Lorsqu'il quitta le quartier général de l'armée spatiale chinoise, Taylor croisa une sentinelle. Quand son regard rencontra celui du soldat, ce dernier lui adressa un sourire de respect un peu gêné. Il n'en avait pas vu de tel dans les autres armées nationales qu'il avait inspectées, où les sentinelles gardaient leurs yeux droit devant eux. En regardant le visage de ce jeune homme, Taylor répéta cette sentence au fond de lui.
« Maman, je vais devenir une luciole. »
Le même jour, au moment où le soleil se couchait, il se mit à pleuvoir. C'était la première averse qui tombait ici depuis l'arrivée de Luoji. Il faisait froid dans le salon. Luoji s'assit devant la cheminée sans feu et écouta tinter les perles de pluie à l'extérieur, avec l'impression que la maison était une petite île solitaire flottant au milieu d'un océan sombre. Il était enveloppé d'une solitude sans fin. Depuis le départ de Shixiang, il passait son existence dans une attente angoissée, tout en sentant que cette solitude et cette attente étaient en elles-mêmes une forme de réjouissance. Il entendit soudain une voiture s'arrêter sous le porche et distingua vaguement quelques bribes de paroles, dont certaines prononcées par une voix féminine douce et légère qui disait « Merci » et « Au revoir ». Il tressauta comme sous l'effet d'une décharge électrique. Il avait entendu cette voix 2 ans plus tôt dans un rêve à demi éveillé. C'était un son imperceptible, aussi léger qu'un mince nuage blanc traversant l'azur. Dans ce maussade ciel du soir avait surgi un éphémère rayon de soleil. Puis on frappa légèrement à la porte. Luoji resta assis et ne lâcha qu'au bout d'un long moment un faible « Entrez ». La porte s'ouvrit. Une silhouette délicate entra, suivie du parfum flottant de la pluie. La seule lumière du salon provenait d'une lampe de plancher et d'un vieil abat-jour, si bien qu'en dehors d'un cercle devant la cheminée, le reste de la pièce était plongé dans l'obscurité. Luoji ne distinguait pas son visage. Il pouvait seulement remarquer qu'elle portait un pantalon clair et une veste sombre qui contrastait avec son col blanc. Il repensa à la fleur de lys.
« Bonsoir, professeur Luo, » dit-elle.
« Bonsoir, » répondit Luoji en se levant. « Est-ce qu'il fait froid dehors ?»«
Pas dans la voiture. »
Luoji ne la voyait pas clairement, mais il était sûr qu'elle souriait.
« Mais ici... »
Elle regarda tout autour d'elle.
« Il fait un peu froid, oui. »« Oh, j'oubliais, professeur Luo. Je m'appelle Chuang Yan. »«
Bonsoir, Chuang Yan. Eh bien... » « Allumons la cheminée. » Luoji s'accroupit pour enfourner les bûches. Il demanda « Avais-tu déjà vu des cheminées ? Oh, tu peux t'approcher ?» Elle vint s'asseoir sur le canapé encore nimbé d'obscurité.
« Seulement à la télévision. »
Luoji craqua une allumette et enflamma l'allume-feu sous les bûches. Les flammes s'allongèrent comme si elles étaient vivantes et la chevelure de la jeune femme se dévoila peu à peu dans un halo doré. Les 2 doigts de Luoji pinçaient encore l'allumette, déjà presque entièrement consumée. Il avait besoin de cette douleur pour lui rappeler qu'il ne rêvait pas. Il avait l'impression qu'il venait d'allumer un soleil illuminant un monde onirique. Le soleil de l'extérieur pouvait bien demeurer à jamais caché derrière le gris de la pluie et le noir de la nuit. Son monde n'avait besoin que d'elle et de la lumière du feu. « Dashi, où êtes-vous allé la chercher ?» « Mais où diable l'avez-vous trouvé ?» Luoji détourna son regard des flammes et ses yeux se mouillèrent instantanément de larmes. Il craignit d'abord qu'elle ne les voie, mais bien vite, il se dit qu'il n'avait pas besoin de les dissimuler, car elle croirait sans doute que c'était la fumée qui le faisait pleurer. Alors, il leva la main pour les essuyer.
« Il fait chaud, c'est si bon !»
sourit-elle en contemplant l'âtre. Cette phrase et ce sourire firent une nouvelle fois vaciller Luoji.
Étrange.
Elle leva la tête et considéra le salon plongé dans l'obscurité. Est-ce différent de ce que tu avais imaginé?
Oui, c'est différent.
Ici, ce n'est pas assez... Luoji repensa à son prénom. Pas assez solennel? Elle lui sourit.
« Le Yan de mon prénom n'est pas celui signifiant solennel, mais celui de couleur. »«
Oh, je vois. Tu avais peut-être imaginé des murs recouverts de cartes, des grands écrans, une brigade de généraux en uniforme, et moi au milieu d'eux en train de donner des instructions avec un bâton ?»«
Oui, c'est ça, professeur Luo. »
Son sourire s'éclaira de bonheur comme l'éclosion d'une rose. Luoji se leva. « Le voyage a dû te fatiguer, veux-tu un peu de thé ?» Il hésita un instant. « Ou bien du vin, ça réchauffe. »«
D'accord, »
fit-elle en hochant la tête. Elle accepta le verre qu'il lui tendait, le remercia à voix basse et but une petite gorgée. En la regardant saisir innocemment le verre, la partie la plus délicate de son cœur tressaillit. Il lui proposait de boire et elle buvait. Elle avait foi en ce monde. Elle n'avait aucune méfiance envers lui. Oui, le monde entier était un piège qui menaçait sans cesse de la blesser, mais
Ici, il mettrait tout en œuvre pour la protéger. Ce lieu serait sa forteresse.
Luoji s'assit et regarda Chuang Yan. Il s'efforça de se détendre.
Que t'ont-ils dit avant de te faire venir ici?
Que je venais travailler, bien sûr.
Une nouvelle fois, la candeur de sa réponse mit une nouvelle fois son cœur en pièces.
Professeur Luo, quel sera mon travail?
Qu'as-tu fait comme étude?
J'ai étudié la peinture chinoise à l'Académie centrale des beaux-arts.
Est-ce que tu as eu ton diplôme?
Oui, tout juste. Je cherchais un travail en préparant mes examens d'entrée en master.
Luoji réfléchit pendant un long moment, mais il se trouva incapable de trouver une idée sur ce qu'elle pourrait faire ici.
« Eh bien, nous rediscuterons de ton travail demain. Tu dois certainement être fatigué. Prends d'abord un peu de repos. Cet endroit te plaît ?»«
Je ne sais pas encore. Quand nous sommes arrivés à l'aéroport, il y avait du brouillard. Puis la nuit est tombée et on ne voyait plus rien. Professeur Luo, où sommes-nous ?»«
Je ne le sais pas non plus. »
Elle hocha la tête et gloussa discrètement. De toute évidence, elle ne le croyait pas.
« Je t'assure que j'ignore où nous nous trouvons.
Au vu de la topographie, je dirais la Scandinavie. Si tu le souhaites, je peux passer un coup de fil et me renseigner immédiatement, » dit-il en tendant la main vers le téléphone à côté du canapé.
« Non, non, professeur Luo, c'est très bien comme ça de ne pas savoir.
Pourquoi ?»«
Pourquoi ? Dès que nous savons où nous sommes, le monde devient aussi étroit qu'une carte. »«
Mon Dieu !» se dit Luoji.
Elle eut soudain une remarque.
« Professeur Luo, la robe de ce vin rouge est magnifique à la lueur du feu. »
Abreuvé par les flammes, le vin apparaissait sous un carmin étincelant qui n'appartenait qu'au rêve.
« À quoi trouves-tu que cela ressemble ?» demanda nerveusement Luoji.
Je pense à des yeux.
Aux yeux du crépuscule?
Les yeux du crépuscule? C'est très bien dit, professeur Luo.
Tu préfères donc le crépuscule à l'aube?
Oui, comment le savez-vous? Ce que je préfère, c'est peindre des paysages crépusculaires.
Ses yeux, illuminés par les flammes, semblaient vouloir dire « Qu'y a-t-il de mal à cela ?» Le lendemain, à l'aube, la première éclaircie du jour procura à Luoji le sentiment que Dieu avait nettoyé ce jardin d'Éden pour la venue de Chuang Yan. Lorsque celle-ci vit pour la première fois le lieu sous sa véritable apparence, Luoji n'entendit pas d'exclamations démesurées que d'autres jeunes femmes de son âge auraient sans doute poussées devant la beauté du paysage. Elle était en état de vénération, de suffocation. Elle n'arrivait pas à prononcer un seul mot d'admiration. Luoji pouvait voir qu'elle était bien plus sensible à la beauté de la nature que ses congénères. « Tu as toujours aimé dessiner ?» demanda-t-il. Les yeux de Chuang Yan étaient toujours rivés sur l'un des sommets enneigés du lointain. Elle ne retrouva ses esprits qu'après un certain temps.
« Oh oui, mais si j'avais grandi ici, je n'aurais peut-être pas aimé. »
Pourquoi ça?
J'ai imaginé de nombreux endroits merveilleux et quand je les dessine, c'est comme si je m'y rendais moi-même. Mais ici, l'imagination, le rêve, tout est déjà là. Que reste-t-il à peindre?
C'est vrai. Quand la beauté de notre imagination devient réelle, c'est vraiment... commença Luoji. Il dirigea son regard vers Chuang Yan qui se tenait sous le soleil levant. Un ange sortit droit de ses rêves. Dans son cœur, le bonheur glissait comme les ondes de lumière à la surface du lac. Les Nations Unies, le CDP, il n'avait pas imaginé cette conséquence du programme collimateur. Il pouvait mourir à présent, cela ne le regardait plus.
Professeur Luo, il a beaucoup plu hier. Pourquoi la neige sur ce sommet n'a pas fondu ?
Le questionna Chuang Yan.
La pluie est tombée en dessous de l'étage Nival. Sur ce mont, l'enneigement est permanent.
Êtes-vous déjà allé là-haut?
Non, je n'habite pas ici depuis très longtemps.
Luoji nota que les yeux de la jeune femme n'avaient pas quitté les montagnes.
Tu aimes ce mont enneigé?
Elle hocha la tête.
« Eh bien, allons-y. »«
Vraiment ? Quand ça ? » demanda-t-elle, surprise.
« Nous pouvons nous mettre en route dès maintenant. Il y a une route publique simple d'accès qui mène jusqu'au pied du sommet. Si nous partons tout de suite, nous pourrions être de retour ce soir. »«
Mais... et mon travail ?»
Chuang Yan détourna son regard des montagnes et le posa sur Luoji.
« Cela peut attendre, tu viens juste d'arriver, » justifia-t-il sans conviction. « Dans ce cas ?»
Elle inclina la tête et le cœur de Luoji fit de même. Cette expression et ce regard presque enfantin, il les avait déjà vus à d'innombrables reprises sur ce corps.
« Professeur Luo, je dois quand même savoir ce que je vais faire. »
Luoji plongea ses yeux dans le lointain, il réfléchit quelques secondes, puis répondit sur un ton résolu.
« Je te le dirai une fois que nous aurons atteint le sommet. »«
Bien, alors mettons-nous en route. »
« Entendu. Nous prendrons le bateau pour rejoindre l'autre rive du lac avant de prendre la voiture. Ce sera plus rapide. »
Ils marchèrent jusqu'au bout de la jetée. Luoji expliqua que le vent était favorable. Ils pouvaient prendre le voilier. Le soir venu, le vent tournerait. Ce serait idéal pour le trajet du retour. Il prit Chuang Yan par la main pour la faire monter sur le bateau. C'était la première fois qu'il la touchait. Ses mains étaient telles qu'il les avait imaginées pour la première fois cette nuit d'hiver, douce et glacée. Elle observa avec admiration Luoji hisser le spi. Quand ils se furent éloignés de la jetée, elle plongea une main dans le lac.
« L'eau est froide, » dit Luoji.
« Mais elle est propre et si pure. »«
Comme tes yeux, » pensa Luoji.
« Pourquoi aimes-tu tant les monts enneigés ?»«
Je suis passionné de peinture traditionnelle. »«
Qu'est-ce que les monts enneigés ont à voir avec la peinture traditionnelle ?»«
Professeur Luo, connaissez-vous la différence entre la peinture chinoise traditionnelle et la peinture à l'huile ?»«
Les peintures à l'huile sont remplies de couleurs denses. »«
Un grand maître a dit un jour que, dans la peinture à l'huile, le blanc est aussi précieux que l'or. » Alors que dans la peinture traditionnelle, il y a beaucoup, beaucoup de blanc, et ce vide, c'est l'œil de la peinture. Le paysage n'est rien d'autre que le cadre du vide. Regardez comme ce mont ressemble au vide d'une peinture traditionnelle.
C'était le plus long monologue qu'elle avait tenu depuis son arrivée. Elle avait discouru comme si elle donnait une leçon au colmateur, comme s'il était un étudiant ignorant, mais sans paraître irrévérencieuse. « Toi aussi, tu es le vide d'une peinture traditionnelle. C'est toi qui la remplis. Pour tout amateur qui se respecte, tu es pure mais infiniment belle, » pensa Luoji en dévorant Chuang Yan des yeux.
Ils arrimèrent le voilier à l'appontement de l'autre rive. Une jeep était garée à l'orée de la forêt. Le chauffeur qui l'avait conduite jusqu'ici était déjà reparti.
« C'est un véhicule militaire, n'est-ce pas ? À mon arrivée, j'ai vu des soldats tout autour du domaine.
Je suis passé devant 3 postes de sentinelles, » dit Chuang Yan en montant dans la voiture.
« Ce n'est pas grave, ils ne nous dérangeront pas, » glissa Luoji en faisant démarrer le moteur.
Ils empruntèrent un sentier étroit et chaotique qui coupait à travers la forêt, mais le véhicule avait une très bonne tenue de route. Dans les bois, les rayons du soleil qui transperçaient un à un les pins géants chatoyaient dans la brume qui ne s'était pas encore tout à fait dissipée. Même avec le bruit du moteur, on pouvait entendre distinctement les chants des oiseaux perchés dans les arbres. Un vent frais et agréable fouettait les cheveux de Chuang Yan, dont quelques mèches effleurèrent le visage de Luoji. Dans ses chatouillements, il se souvint du voyage d'hiver qu'il avait fait 2 ans plus tôt. Tout autour de lui était bien différent des plaines enneigées de la Chine du Nord et des montagnes Hang. Mais les rêves de cette époque et la réalité de son présent se connectaient de façon si synchrone que Luoji avait du mal à croire que cela lui arrivait à lui. Luoji se tourna pour jeter un coup d'œil à Chuang Yan et s'aperçut qu'elle aussi le regardait, sans doute depuis un certain temps. Son regard était empreint d'une curiosité mêlée à une bienveillance sincère. Les faisceaux lumineux qui traversaient les arbres pleuvaient sur son corps et son visage. Quand elle vit que Luoji lui rendait son regard, elle ne détourna pas les yeux.
« Professeur Luo,
Avez-vous vraiment la capacité de vaincre les extraterrestres ? Demanda Chuang Yan.
Luoji était conquis par sa candeur. C'était une question que personne d'autre qu'elle n'aurait posée, et ils ne se connaissaient pourtant que depuis peu.
Chuang Yan, le cœur du programme colmateur est d'emprisonner les intentions stratégiques réelles de l'humanité dans l'esprit d'un seul homme, car c'est le seul endroit du monde humain qui puisse échapper à la surveillance des intellectrons. Il fallait donc choisir quelques individus, mais ça ne veut pas dire que ce sont des surhommes. Les surhommes n'existent pas.
Mais pourquoi vous avoir choisi vous ?
Cette question était encore plus brutale et outrageuse que la précédente. Mais elle sonnait naturelle dans la bouche de Chuang Yan, car dans son cœur transparent, chaque rayon de soleil perçait et se réfractait avec clarté.
Luoji stoppa lentement la voiture. Chuang Yan le regarda avec surprise, tandis que ses yeux à lui étaient rivés sur la route mouchetée de lumière solaire.
Les colmateurs sont les pires esbroufeurs de l'histoire, les plus grands menteurs.
C'est votre devoir.
Luoji hocha la tête.
Mais, Chuang Yan, il faut me croire, tout ce que je vais te dire à présent est la pure vérité.
Elle répondit elle aussi par un hochement de tête.
Parlez, professeur Luo, je vous fais confiance.
Luoji resta un long moment silencieux, comme pour alourdir le poids des paroles qu'il s'apprêtait à prononcer.
J'ignore pourquoi ils m'ont choisi.
Puis il se tourna vers elle.
Je suis juste un homme ordinaire.
Chuang hocha encore une fois la tête.
Ça doit être difficile alors.
Ces mots, ainsi que sa mine naïve et innocente, noyèrent une nouvelle fois ses yeux de larmes. Depuis qu'il était devenu colmateur, c'était la première fois qu'on l'interrogeait ainsi. Les yeux de la fille étaient son paradis. Son regard cristallin n'avait rien à voir avec celui des autres lorsqu'il regardait les colmateurs. Son sourire aussi, c'était son paradis. Ce n'était pas le proverbial « sourire au colmateur ». Le sien était sincère, comme une perle de rosée imbibée de soleil qui ruisselait le long des galeries les plus asséchées de son âme.
« C'est difficile, mais je fais en sorte que ce soit plus simple. »
« Voilà, ici s'arrêtent mes paroles sincères, je repasse en mode colmateur, » lâcha Luoji. Puis il redémarra le moteur. Ils roulèrent en silence jusqu'à ce que les arbres se fassent plus clairsemés et que pointe au-dessus d'eux un bout de ciel bleu.
« Professeur Luo, regardez cet aigle dans le ciel !» s'exclama Chuang Yan.
« Et là, un cerf !» cria Luoji en montrant du doigt une autre direction pour détourner l'attention de Chuang Yan. Ce qui était apparu dans le ciel n'était pas un aigle, mais un drone de surveillance.
Luoji pensa à Shi Xiang. Il sortit son téléphone portable et composa son numéro.
La voix de Shi Xiang résonna de l'autre côté.
« Alors, vieux frère, c'est maintenant que vous vous souvenez de moi ? Dites-moi d'abord, comment va Yan Yan ?»«
Bien, très bien, merveilleusement bien. Merci. »«
Tant mieux, j'aurai réussi ma dernière mission. »«
Votre dernière mission ? Où êtes-vous ? » ?»«
Au pays, je me prépare à entrer en hibernation. »«
Comment ? » ?»«
J'ai une leucémie, je pars me faire soigner dans le futur. »
Luoji donna un violent coup de frein. Chuang Yan poussa un faible cri de surprise. Luoji la regarda, inquiet, mais voyant qu'elle n'avait rien, il reprit sa discussion avec Shi Xiang.
« Depuis quand ?»«
J'ai été irradié lors d'une mission antérieure. On m'a diagnostiqué la maladie l'année dernière. »«
Bon sang, mais est-ce que je ne vous ai pas retardé ?»«
Il n'y a jamais de retard avec ce genre de truc. Qui sait de quoi sera capable la médecine de demain ?»«
Je suis vraiment désolé, Dashi. »
« Ce n'est rien, ce sont les risques du métier. Je ne vous ai pas embêté avec ça parce que je me disais qu'on aurait peut-être encore l'occasion de se recroiser un de ces jours prochains. Mais dans l'éventualité où on ne se reverrait plus, je voudrais vous demander quelque chose. »«
Je vous écoute. »
Shi Xiang resta longtemps silencieux, puis il finit par articuler.
« Il y a trois choses qui sont contraires à la piété filiale, et la plus répréhensible, c'est de ne pas avoir de descendants. Vieux frère, je vous demande de bien vouloir prendre soin de la famille Shi dans 4 siècles.
Luoji raccrocha le téléphone et leva les yeux au ciel d'où le drone avait disparu. L'azur était aussi vide que son cœur. « C'était Oncle Shi ?» demanda Chuang Yan.
« Oui, tu l'as déjà rencontré ?»«
Oui, c'est un homme bien. Le jour où je suis parti, il s'est accidentellement écorché la main. Le sang n'a pas arrêté de couler, c'était assez terrifiant. »
« Oh, et qu'est-ce qu'il t'a dit ?»«
Que vous étiez en train d'exécuter la mission la plus importante du monde et qu'il fallait que je vous aide. » C'était cette fois la forêt qui avait complètement disparu. Il ne restait plus devant eux que la prairie et la montagne. Gris argenté et vert tendre, deux couleurs qui faisaient paraître le paysage de ce monde encore plus dépouillé et pur. Pour Luoji, la nature qui s'étendait devant lui devenait de plus en plus comme la jeune femme assise à ses côtés. Il remarqua un soupçon de mélancolie dans les yeux de Chuang Yan et put même détecter comme un léger soupir.
Yan Yan, que se passe-t-il ?
C'était la première fois qu'il l'appelait ainsi. Il s'était dit que si Shi Xiang pouvait, alors lui aussi.
Quand je pense qu'un jour plus personne ne pourra contempler un monde aussi beau, je trouve ça triste.
Mais les extraterrestres seront là.
Je ne crois pas qu'ils soient capables d'apprécier la beauté.
Pourquoi ?
Mon père dit que les êtres sensibles à la beauté de la nature sont par essence bienveillants. Eux ne le sont pas. Ils ne peuvent donc pas apprécier la beauté.
Yan Yan, la façon dont ils traitent l'espèce humaine est le résultat d'un choix rationnel. C'est la manière la plus responsable d'assumer la survie de leur espèce. Cela n'a rien à voir avec de la bonté ou de la méchanceté.
C'est la première fois que j'entends ça. Professeur Luo, vous les rencontrerez plus tard, n'est-ce pas?
Peut-être.
S'ils sont vraiment comme vous le dites et si vous devez les vaincre lors de l'ultime bataille, pourrez-vous...
Chuang Yan inclina la tête pour le regarder. Elle hésitait. Luoji eut envie de lui dire que cette probabilité était presque nulle, mais il n'en eut pas le cœur et demanda
« Quoi donc ? » « Pourrez-vous ne pas les renvoyer dans l'espace ? Ne pas les laisser s'éteindre, leur offrir une petite place, les laisser coexister avec nous, ce serait merveilleux ?»
Sous le coup de l'émotion, Luoji demeura un long moment silencieux, puis il pointa le ciel en disant « Yan Yan, je ne suis pas le seul à t'avoir écouté. » Chuang Yan regarda le ciel avec nervosité.
Oh, c'est vrai. Nous sommes peut-être cernés d'un électron.
Et peut-être même que c'est le chancelier trisolarien lui-même qui t'a entendu.
Alors vous vous moquez tous de moi, c'est ça?
Non, Yan Yan. Sais-tu à quoi je suis en train de penser? Luoji éprouva brusquement le désir irrésistible de saisir sa délicate main gauche posée à côté du volant, mais il parvint à se contenir. « Je suis en train de me dire que celle qui a en réalité une chance de sauver le monde, c'est toi. »«
Moi ?»
s'étonna-t-elle en riant.
« Oui, sauf que tu n'es pas assez nombreuse. Oh, je veux dire que les gens comme toi sont trop peu nombreux. Si seulement un tiers de l'humanité pouvait être comme toi, la civilisation trisolarienne accepterait peut-être de négocier, d'évoquer la possibilité de coexister au sein du même monde, mais maintenant... »
Il poussa un long soupir.
« Professeur Luo, » dit Chuang Yan en souriant à contre-cœur, « je ne suis pas un exemple. On dit toujours qu'après l'université, on entre dans la vie active comme un poisson dans l'océan, mais l'eau est si trouble, rien n'est clair pour moi. » Et en m'efforçant de nager vers des eaux plus propres, je m'épuise.
« Laisse-moi t'aider à nager jusqu'à ces eaux, » pensa Luoji. La route commençait à grimper la montagne. Au fur et à mesure que l'altitude augmentait, la végétation se faisait plus rare, révélant des roches noires et nues. Sur une portion de route, il leur sembla même rouler à la surface de la lune. Mais très vite, la voiture dépassa l'étage nival et ils furent entourés par un blanc immaculé. L'air se gorgea d'une fraîcheur glaciale. Luoji prit un sac de voyage posé sur la banquette arrière et en sortit des pulls en laine. Ils les enfilèrent et continuèrent la route. Après un court moment, ils virent un panneau d'affichage au milieu de la route où il était écrit cet avertissement. « Route bloquée, risque d'avalanche ».
Ils descendirent de la voiture et marchèrent jusqu'à la chaussée enneigée. Le soleil avait amorcé sa descente. Les pentes neigeuses des environs étaient déjà dans l'ombre. La neige était d'un bleu clair, très pur, comme si elle scintillait d'une légère fluorescence. Au loin, les pics enneigés se dressaient verticalement tels des lames de poignard, répandant une lumière argentée et radieuse aux quatre horizons, comme si c'était la montagne et non le soleil qui avait toujours illuminé ce monde.
Bien. À présent, la peinture est entièrement blanche, dit-il en dessinant un cercle avec ses bras.
Chuang Yan contemplait avec ravissement cette terre immaculée.
Professeur Luo, j'ai autrefois créé une peinture de ce genre. De loin, on croit voir une simple feuille blanche, presque entièrement vide, mais quand on s'approche, on remarque des brins de roseaux en bas à gauche, un oiseau sur le point de disparaître en haut à droite, et au centre du vide, deux personnages minuscules. C'est l'œuvre dont je suis la plus fière.
Je peux l'imaginer, elle doit être magnifique.
Eh bien, Chuang Yan, maintenant que nous sommes au milieu de cet univers de vide, souhaites-tu connaître le travail que je vais te confier ?
Chuang Yan acquiesça nerveusement de la tête.
Tu connais la nature d'un plan de collimateur. Sa réussite dépend de son inintelligibilité. Le degré le plus élevé d'un plan de collimateur, c'est lorsqu'en dehors du collimateur lui-même, personne, ni sur Terre, ni sur Trisolaris, ne parvient à le comprendre. Voilà pourquoi, Chuang Yan, même quand ton travail te paraîtra peut-être incompréhensible, il aura forcément un sens. N'essaie pas de le comprendre, fais simplement du mieux que tu peux.
Chuang Yan hocha prestement la tête.
J'ai compris.
Puis elle rit à nouveau en secouant la tête.
Naturellement, je voulais dire, je sais.
En la regardant ainsi encerclée de neige, dans cet espace si blanc et si pur qu'il en avait presque perdu tout relief, il sentait que le monde se dérobait devant elle pour ne laisser que sa seule présence. 2 ans plus tôt, quand la figure littéraire qu'il avait créée avait pris place dans son imagination, Luo Ji avait goûté à l'amour. Mais maintenant, au cœur du vide de cette immense peinture naturelle, il en comprenait le mystère suprême.
Chuang Yan, ton travail sera d'être heureuse.
Elle écarquilla les yeux. Tu devras t'efforcer de devenir la femme la plus heureuse et la plus rayonnante de la terre. Cela fait partie de mon plan de collimateur.
La lumière du pic enneigé qui éclairait le monde se refléta dans ses pupilles.
Dans ce regard cristallin, des sentiments complexes passèrent comme des nuages à la dérive. La montagne blanche absorba tous les sons du monde extérieur. Luo Ji attendait patiemment dans ce silence absolu. Enfin, Chuang Yan répondit avec une voix qui paraissait lointaine.
« Alors, que dois-je faire ?»
Luo Ji répondit, exalté.
« Comme bon te semblera.
Demain ou bien ce soir, après que nous serons rentrés, tu pourras aller où tu as envie, faire ce qui te plaira, mener la vie que tu souhaites vivre. Et moi, en tant que collimateur, je m'attacherai à faire tout mon possible pour t'aider. »
Mais je...
La jeune femme regarda Luo Ji avec impuissance.
« Professeur Luo, je n'ai besoin de rien. »
« Comment ça ? Mais nous avons tous besoin de quelque chose. Les hommes comme les femmes ne sont-ils pas tous à la recherche de quelque chose ?»«
Est-ce que j'ai déjà été à la recherche de quelque chose ?»
Chuang Yan secoua lentement la tête.
« Non, je ne crois pas. »
« Oh oui, une fille comme toi ne demande rien, mais tu as forcément des rêves. Par exemple, tu aimes peindre. Ne souhaiterais-tu pas pouvoir exposer tes œuvres dans les plus grandes galeries ou dans les plus grands musées des beaux-arts du monde ?»
Chuang Yan éclata de rire comme si Luo Ji était redevenu un enfant ignorant. « Professeur Luo, je dessine pour moi-même, je n'ai jamais pensé à tout ça. »
« Bon, tu as bien dû rêver d'amour ?» demanda Luo Ji sans réfléchir. « Avec davantage de moyens, tu pourras partir à la recherche de l'amour, non ?»
Le crépuscule détournait sa clarté du sommet. Les yeux de Chuang Yan s'assombrirent et son regard se fit plus doux. Elle lâcha à voix basse. « Professeur Luo, Est-ce que c'est bien quelque chose que l'on cherche ?
Tu as raison. Luigi se calma, il hocha la tête. Eh bien, faisons ainsi. Ne pense pas à trop long terme. Réfléchis seulement à demain. Demain, d'accord ? Demain, où voudrais-tu aller ? Que souhaiterais-tu faire ? Comment demain pourrait-il te rendre heureuse ? Tu peux tout de même penser à ça, n'est-ce pas ?
Chuang Yan réfléchit consciencieusement pendant un long moment et finit par demander sur un ton hésitant.
« Et si je vous le dis, ce sera vraiment possible ?»«
Je te l'assure. Parle !»«
Eh bien, professeur Luo, pourriez-vous m'emmener au musée du Louvre ?»